Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Il y a aussi un nouveau documentaire qui s'intitule L'escroc. C'est produit par Attraction Images et disponible sur la plateforme Vrai. Et l'escroc, ben on va savoir c'est qui. Sophie Charest est avec nous. Elle est conceptrice et chef recherchiste de ce documentaire. Madame Charest, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, pourquoi vous, d'abord, c'est qui l'escroc et c'est quoi le cas? Parce qu'on va parler évidemment de Norbeau.
Absolument. Donc, l'escroc, c'est une série documentaire de 5 épisodes d'une heure, comme vous l'avez dit, qui est déjà disponible sur la plateforme Vrai. Et l'escroc parle du scandale de la firme Norbeau et qui était à la tête de cette firme-là, évidemment. C'est Vincent Lacroix. Vincent Lacroix qui est l'escroc en chef, qu'on peut dire.
Ouais.
Évidemment, l'escroc en chef n'a pas agi seul dans toute cette histoire qui est une des plus grandes fraudes qu'a connue certainement le Québec. Pas la seule, mais une des plus importantes. Mmh. Donc, c'est de lui dont on parle dans cette série-là, entre autres choses.
Est-ce qu'on peut faire, Sophie Charest, une brève chronologie des événements là, pour qu'on rappelle aux gens de quoi et de qui on parle?
Absolument. Donc, on a appris un peu l'existence de ce scandale-là, réveil très subi et très brutal au mois d'août 2005, donc à la fin du mois d'août 2005, où justement la GRC a débarqué dans les bureaux de Norbeau au centre-ville de Montréal pour perquisitionner les lieux. Et là, quand la nouvelle a sorti, ça a sorti sur tous les réseaux, sur tous les médias, évidemment, on en a parlé abondamment. Donc, réveil brutal, on perquisitionne chez Norbeau. Et là, peu de temps après, finalement, on comprend que il y a de l'argent qui a été volé et des milliers d'investisseurs floués. Donc, c'est la journée du choc. C'est cette date-là.
Qui a duré 30 heures, hein, ce qu'on apprend dans votre documentaire.
Absolument.
C'est vraiment bon,
oui,
ce que vous avez fait. Là. Vous avez vraiment fait un beau travail. Mais c'est un espèce de casse-tête à mettre en place là, pour qu'on comprenne l'histoire. Alors perquisition au mois d'août 2005 et la suite?
Oui. Et la suite des choses, évidemment, l'équipe des Bruxelles, qui est à la tête de cette équipe intégrée-là, menée par la GRC, mais avec plusieurs autres partenaires, débarquent là et ils doivent analyser des centaines et des milliers de documents, de
ouais,
fichiers. C'est un casse-tête sans nom. D'ailleurs, Monsieur Roussel s'est assis avec nous. Il fait partie des personnes très, très importantes dans cette série-là, puisqu'il nous parle vraiment des dessous, de l'envers de cette enquête-là, qui était énorme. Et là, son armée se met à analyser ces documents-là pour faire la preuve, pour éventuellement, évidemment, poursuivre Vincent Lacroix et d'autres personnes qui ont pu collaborer avec lui. Ces poursuites-là vont finalement atterrir en 2007, où il y a un premier procès, le procès pénal. Et là, c'est un procès en vertu de la loi sur les valeurs mobilières que Vincent Lacroix est jugé. Il va avoir une peine de prison de 12 ans, qui va être réduite par la suite à 5 ans parce que on demande en fait que la peine soit réduite parce que c'était la première fois qu'un juge donnait une peine de 12 ans et là, tout le monde se disait, ben, ça se peut pas, on peut pas au pénal donner une peine maximum de 5 ans. Par la suite, encore un autre rebondissement, il y a un procès au criminel et là, Vincent Lacroix revient au tribunal et avec 5 co-accusés, encore là, une saga judiciaire qui a duré plusieurs mois.
Là, on parle d'une fraude de 130 millions de dollars sur 9 000 clients. C'est vraiment bon parce que on comprend, juste ces deux premiers épisodes, là, on comprend en même temps comment, grâce à Michel Nadeau qui nous a quittés malheureusement.
Oui, absolument.
Ça, c'est fascinant, là. Comment Vincent Lacroix a mis le premier pas dans la business? Michel Nadeau qui était expert en finance et en gouvernance et là tout à coup il a fait son chemin et qui est devenu un ami des médias, il était au Canal Argent, il était invité un peu partout puis c'était comme la vedette de service pour parler des investissements, c'était le king.
Absolument, et c'est ce qui nous a aussi intéressé dans cette histoire-là, outre évidemment le sort que les victimes ont connu, c'est comment Vincent Lacroix s'est construit et comment il a réussi à faire son chemin et à devenir la vedette qu'il est devenu. Il n'a pas fait ça seul. Donc, Vincent Lacroix, on se souvient pas de ça et parce qu'on n'a pas trop entendu parler, mais à un moment donné, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, il s'est retrouvé à parler à toutes sortes de personnes, dont Bernard Landry, et est engagé éventuellement par Michel Nadeau. Le regretté Michel Nadeau, qui a été super généreux dans son entrevue, ouais, d'ailleurs.
Ouais.
Et faut se souvenir qu'à cette époque-là, le Québec avait peur que les capitaux se retrouvent à l'étranger, à Toronto, du côté des anglophones. Et un homme comme Vincent Lacroix était là un peu pour sauver les meubles. Donc, il y a une espèce de nationalisme financier. On était dans cette mouvance-là. Et Vincent Lacroix est arrivé au bon moment. Donc, lui nous dit, on va créer cette culture-là de finance ici au Québec. On va créer des firmes qui vont rapatrier ce capitaux-là et on va essayer de créer de la richesse ici au Québec plutôt que cet argent-là se retrouve dans les poches des anglophones de Toronto. Et qui est arrivé vraiment dans un contexte très, très propice et favorable à son ascension.
Sophie Charest, vous avez mis combien de temps à organiser tout ça? Parce que vous avez des enquêteurs, des amis, des collègues, des victimes qui prennent la parole. J'imagine qu'il y en a qui ont refusé de participer au documentaire?
Absolument. Je vous dirais qu'il y a une trentaine, un petit peu plus qu'une trentaine de personnes qui nous ont accordé des entrevues devant la caméra, mais il y en a des dizaines d'autres à qui on a parlé, qui ont refusé de nous parler. C'était un travail colossal. Ça a duré pendant plusieurs mois et je vous dirais qu'il y a eu des moments où on se demandait, oh mon Dieu, pourquoi on s'est embarqué dans cette affaire-là? Parce qu'à un moment donné, les gens te disent non et te disent non à répétition, on est comme, OK, là, il faut faire ce show-là.
Vous aviez mis le doigt sur quelque chose, là, puis vraiment, c'est fascinant, là. Comment vous pourriez décrire, c'est une question à part, là, deux affaires, là. Comment vous pourriez décrire le duo Fiston et Papa Lacroix, là, Donald et Vincent? C'est deux numéros, quelque chose de rare, ça.
Absolument. C'est sûr que Vincent Lacroix et son père, c'était des gens qui étaient très connus. Tu sais, la famille Lacroix, c'est ce qu'on s'est aperçu en parlant des gens qui étaient proches d'eux, que c'était des gens très en vue en Estrie, à Magog principalement. Donc, c'est une personne là, qui était admirée, qui était impliquée dans la communauté, une famille très, très connue. Donald Lacroix, le père de Vincent Lacroix, à tout le moins sur papier, agissait un peu comme le porte-parole de Norbeau. Et on se souviendra, et les gens nous en ont parlé dans la série, qu'il a accueilli une journaliste et son caméraman d'une façon assez, sinon froide, voire violente.
Ouais, on dira pas comment.
Maison avec un bâton de baseball.
Ah bon, OK. Ce que vous l'avez dit, c'est le bad boy de service. Oui, c'est ça. Ça donne une image hein, de toute la famille. La dynamique là, du père, du bonhomme puis du fils, là, c'est vraiment intéressant. Vous avez aussi décidé d'illustrer ce documentaire-là avec beaucoup de musique, là, de la musique de l'époque. Ça, c'est ça quand même, il faut décider de mettre des sous pour là-dessus, hein, parce que c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit, d'une part, mais aussi, d'autre part, ça prend de la créativité. Et ouais. Jean-François Poisson, qui est le réalisateur de la série, était hyper motivé de parler de cette époque-là parce que dans la fin des années 90, les années 2000, il y a eu toutes sortes de hits aussi. Jean-François s'est amusé, tu sais, à utiliser la musique pour montrer différents aspects, pour aussi faire vivre différentes émotions aux téléspectateurs. Et c'est sûr que la musique dans ça, effectivement, joue un rôle vraiment, vraiment intéressant.
Ouais, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Vraiment, là, c'est un beau travail. Est-ce qu'on a vérifié, parce qu'on a retourné 32 millions sur les 130. Est-ce qu'on a vérifié dans les comptes de banque des danseuses de chez Paris pour voir s'il restait de l'argent?
Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas allée fouiller dans les comptes de banque de ces gens-là. D'ailleurs, il y a des gens qui prétendent encore aujourd'hui que Vincent Lacroix ou d'autres de ses acolytes ont collé de l'argent dans des comptes et dans des paradis fiscaux qui sont impossibles à récupérer.
Que vous en pensez?
Ça reste à prouver. Personne n'a eu la preuve la preuve de ça. Vincent Lacroix a dû déclarer faillite. Il n'a plus le droit d'exercer dans le monde de la finance. On a évidemment tenté d'avoir M. Lacroix en entrevue, on a essayé de par plusieurs moyens. Ça n'a pas fonctionné. En fait, il a refusé. On a eu un refus officiel, c'est-à-dire qu'on a utilisé un canal X pour le rejoindre et ça a été un refus.
Je me demande pourquoi.
Oui, mais là, en plus, c'est sûr que en ce moment, là, peut-être, je sais pas s'il regrette. C'est sûr que ça reste quelqu'un qui est sous le joug de la commission de libération conditionnelle, évidemment, parce qu'il y a une peine fédérale. Peut-être que ça joue dans sa décision. Maintenant, vous parlez des danseuses, évidemment, il y a des gens dans l'entourage de M. Lacroix qui ont témoigné dans la série, notamment une ancienne employée de chez Paris qui nous a livré un témoignage vraiment d'une sincérité déconcertante.
Allez voir ça.
C'est assez fabuleux et ça nous donne aussi un regard de la période faste de Vincent Lacroix, comment il était dans le monde et comment sa chute aussi a été brutale par la suite.
Alors, c'est sur la plateforme Vrai, c'est 5 épisodes, c'est disponible depuis mardi le 11 janvier. La série L'Escroc, produite par Attraction Images, vraiment du beau travail. Je vais aller voir le reste des 3 épisodes, c'est certain. Sophie Charest, conceptrice et chef recherchiste de L'Escroc, vous travaillez sur quoi là? C'est quoi la prochaine affaire?
Ah, mon Dieu! Prochainement, justement, en février, on sort une nouvelle série sur l'Ordre du Temple solaire.
Ah,
c'est
ouais.
Pas du tout dans le même univers, mais c'est une série de 6 fois 1 heure. Et je vous dirais, moi, personnellement, c'est la série dont je suis le plus fière et c'est la série, une des meilleures séries que moi j'ai eu le plaisir de faire. Et c'est un autre univers complètement. Mais ça va être très percutant.
Ben, reparlons-nous à ce moment-là. Là, c'est un rendez-vous. Moi, ça m'intrigue aussi. Parfait. Sophie Charest, conceptrice et chef recherchiste de L'Escroc. Merci. À la prochaine.
Merci à toi. Merci beaucoup.